Cube Radio.
Marc-André, d'où vient le terme L4 utilisé pour les voitures de haute performance chez FCA, devenue Stellantis?
Tu vois, Germain, l'ancien Marc-André aurait eu tendance à te répondre avec son instinct, en te disant que c'est probablement un ancien animal mythologique américain, comme le Thunderhawk, là. Mais non, le nouveau Marc-André fait des recherches maintenant.
Marc-André 2.0, c'est utiliser Wikipédia.
Il sait surtout se préparer avant d'arriver derrière ce micro.
Mon Dieu, qu'il est un bon enfant.
Tu vois, en lisant sur le L4, puis surtout quand on considère que j'en ai conduit deux en deux semaines, produit L4, là, ça m'a donné l'idée de te proposer ça comme sujet. Hein, pourquoi on parlerait pas du moteur L4?
Ben, on brûle du caoutchouc et on part!
Partons là-dessus!
T'as répondu à ma question, Marc-André, sans y répondre. Donc, d'où vient le terme L4?
Attends, je vais sortir mes notes. Alors, vois-tu, Germain, laisse-moi te ramener à une époque qui était plus facile, une époque qui était plus galante, sans pandémie.
Non, là, c'était la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas beaucoup plus galant.
Non, effectivement, c'est une époque qu'on peut qualifier d'un peu plus difficile. Pour faire une histoire courte, les jeunes savent sans doute, là, les États-Unis se sont battus sur deux fronts. Hein. Il y a eu le front européen contre l'Allemagne nazie, assisté par les Britanniques et les Soviétiques, et il y a eu le front du Pacifique où il était seul.
Non, pas aujourd'hui l'histoire.
Il était seul contre l'Empire du Japon qui avait des visées expansionnistes. Eh bien, les Japonais avaient un excellent avion à l'époque, un chasseur. Est-ce que tu saurais le modèle par hasard?
Pas un Spitfire, par exemple?
Non, ça, tu vois, c'est un modèle d'avion britannique. Non, je vais donner une autre chance. C'était un avion qui était fabriqué par ce qui est aujourd'hui une compagnie automobile.
Et qui fait bien plus que des automobiles.
Ah oui, des airs climatisés.
Oui, Mitsubishi.
Effectivement.
Et qui excelle dans d'autres domaines que l'automobile.
Il excelle surtout dans d'autres domaines que l'automobile, diront les mauvaises langues. Donc, tu vois, Mitsubishi avait à l'époque un excellent avion qui s'appelait le Zero. Excellent au point où ce que les Américains avaient à l'époque pour l'opposer, c'est-à-dire le Wildcat et le Corsair, étaient complètement déclassés.
Wildcat qui a été utilisé ensuite par Buick et Lincoln qui utilise toujours le nom Corsair.
C'est fascinant comment tout est dans tout, hein.
Donc, surtout l'aviation dans l'automobile.
Exactement. Donc, les ingénieurs aéronavals se sont fait demander par le gouvernement américain d'arriver avec un nouvel avion qui est capable d'opérer à partir de porte-avions parce qu'il n'y a pas vraiment de piste de décollage en plein milieu de l'océan. Et ils sont arrivés avec le L4 qui a tout simplement dominé le zéro. Il s'en est fait 13 000 de 1943 à la fin de la guerre. Puis c'est un avion fantastique qui remplissait parfaitement bien son rôle.
Le Grumman F6F Hellcat.
Germain, tu es aussi bien renseigné que moi. Je suis éveillé. Si seulement tous les jeunes apprenaient l'histoire comme toi, on aurait sans doute un meilleur pays.
OK.
Ce qui nous amène à l'ère moderne. Donc, en 2015, il y a quelqu'un d'assez fou chez Dodge à l'époque qui s'est dit « Tu sais ce qui manque, Germain, à notre gamme de véhicules qui est composée de grosses berlines datant de l'ancien châssis de la classe 1 Mercedes-Benz? »
Donc, aussi bien dire l'âge de pierre.
Exactement. Ils se sont dit « Tu sais quoi, on a quand même deux gros choix de moteurs. » Tu sais, on avait les versions RT qui avaient un V8 de 5,7 litres et il y avait, bien entendu, un gros V8 de 6,4 litres SRT. Et ils se sont dit « On va fusionner les deux moteurs ensemble, ça donnait un V8 de 6,2 litres, mais...
On s'est dit, c'est pas assez, ça!
Non.
Rajoutons à la suralimentation!
Exactement. Donc, on est arrivé avec le moteur L4, qui tient son nom de l'avion, comme tu dis si bien.
Et à ce moment-là, on a proposé cette mécanique dans deux véhicules, la Charger et la Challenger. Et la Charger est devenue la berline la plus puissante au monde à ce moment-là.
Ben oui, 707 chevaux. Rappelle-toi de ce chiffre-là. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus puissant, mais quand c'est sorti, c'était facile à s'en souvenir. Hein? Ouais. 707 chevaux et 650 livres pied de couple.
C'était énorme, 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 énorme. C'était un succès instantané.
Ah, écoute, partout où il y en avait, il se vendait tellement que les concessionnaires arrivaient à demander plus cher que le PDSF, le prix de détail suggéré par le fabricant, là. C'était la folie furieuse. Je me rappelle même, en 2015, là, Lamborghini Montréal avait acheté, imagine-toi donc, des L4 pour les vendre.
Et ça nous amène sur le volet de la spéculation, et c'est arrivé à maintes et maintes reprises avec Dodge, entre autres. On se rappelle en 2008, quand la Challenger est arrivée dans sa version SRT8, on disait n'en avoir que 500 pour le Canada. Bon, certaines sources nous laissent croire que il y en a quelques-unes qui avait le même numéro. Ça, c'est une autre histoire. Et à ce moment-là, ben, un certain nombre de propriétaires ont décidé de tout simplement mettre sa voiture dans de la ouate et de la revendre à grand profit quelques années plus tard. L'idée était de reproduire le même phénomène qu'on observait avec les muscle cars des années 60 et 70. Le seul problème, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui ont mis dans la ouate des voitures des années 2000 et 2010 en montant que dans les années 60 et 70. Donc bref, encore aujourd'hui, de trouver un Challenger SRT8 2008, par exemple, qui serait littéralement neuf, c'est pas si difficile que ça à trouver.
Non, c'est vraiment pas si mal, là, tu le dis très bien. Là.
Et si t'avais placé cet argent-là à la banque il y a exactement 13 ans, ben probablement qu'avec un taux là, relativement conservateur, ben t'aurais obtenu le même rendement.
Ouais, ça dépend vraiment des versions. Là. Moi, tu vois, je me rappelle à une lointaine époque, là, en 2005, j'ai un ancien patron là, où je travaillais qui s'est acheté un Charger RT. Tu sais, dans le temps qu'RT, c'était cool avant que ce soit toutes les autres versions. Le RT, c'était quand même bien. De mémoire, son Charger faisait comme 345 chevaux. Tu sais, c'était pas la mer à boire. Mais bon, c'était cool quand même pour le temps. Il avait mis un exhaust Borla dessus. Puis c'est exactement ça ce qu'il a fait. Il a à peu près jamais roulé. Là, je pense qu'il a fait 1000 km le premier été. Il partait de chez lui le vendredi soir.
Aujourd'hui, ça vaut combien? 25 000 $?
Ben,
20 000 $?
Lui, la fois que j'ai parlé, il voulait peut-être le vendre 30 000, là. Mais bon,
c'est optimiste.
Bon, mon point, c'est que, au moins, il a fait attention. Il n'a pas fait le coup d'argent qu'il pensait faire parce que c'était peut-être pas une version assez désirable. Parce que des RT, on a quand même eu beaucoup.
Oui, puis même quand on prend la version qui est probablement la plus rare, c'est-à-dire le démon, hein, parce que bon, en 2018, on a poussé l'exercice au maximum, c'est-à-dire en offrant une version qui est développée 840 chevaux, donc on était déjà bien loin des 707 de la Challenger initiale. Ben, combien de propriétaires de démons l'ont gardé tel quel sans jamais, jamais, jamais la rouler? Encore là, énormément.
Je suis content que tu me parles du démon, Germain, parce que je voulais t'en parler, justement.
Le roi de la transition.
Non, mais tu savais que le moteur L4, c'était pas seulement là que Dodge s'est arrêté, hein, parce que tu parles du démon.
Parce qu'on s'est rendu compte que, ben, il y avait un engouement qui était là et que c'était des versions qui étaient vendues très chères et donc étaient très profitables aux manufacturiers.
Profitable, tu dis? Tu sais, aujourd'hui, le L4 est disponible dans 5 modèles. Challenger, Charger, Grand Cherokee chez Jeep, le Durango chez Dodge, puis le Ram.
Ouais, dans sa version TRX.
Exactement. Puis, pour te donner une idée, là, un Dodge Durango L4, c'est ce que j'ai cette semaine, là. La version que j'ai vaut 126 000 $.
C'est énormément.
Pour un véhicule qui n'a pas changé en 15 ans, Germain.
Non, et le saut fait très mal quand on passe d'une version RT qui va coûter quoi? Autour de 60 000
$. Environ,
Et là, on a déjà un V8 de 5.7 litres. Ça fait du bruit, ça avance. Tu peux opter pour l'ensemble tow and go, un ensemble d'apparence intéressant. Il va gronder encore plus. Mais là, jusqu'à 125 000, la marche est très haute, là.
Ah, c'est une méchante fusée, mais la finition est dégueulasse. Mais c'est là la magie.
Ben, c'est ça.
Il imprime de l'argent. Sans blague, là, je suis convaincu que ce qui fait que ce moteur-là a vu autant de nouvelles versions, on parlait de la démon. On parle de la Red Eye, c'est-à-dire une L4 plus puissante, là, qui va jusqu'à 790 chevaux environ. Le fait que tous ces moteurs-là aient vu le jour dans ces versions-là, c'est qu'imagines-tu la marge de profit qu'ils font sur un Dodge Durango L4, ça doit être de 60-70 000.
Et on joue pas nécessairement franc jeu, j'ai l'impression, parce que le Durango en est un bel exemple. On avait dit que la production allait être de 2000 unités, si je me trompe pas. Et là, on a vu que l'engouement était tellement grand qu'on a décidé d'étirer la production. Je trouve que c'est pas jouer franc jeu avec les propriétaires qui pensaient avoir peut-être un bien très exclusif.
Mais exact, c'est exactement
et
ça.
Et finalement, ça l'est un peu moins. Mais à l'inverse, on comprend que Stellantis, c'est pas une offre de bienfaisance. Et si on voit que la demande est là, on va en construire des véhicules.
Non, mais ça se voit souvent, ça, d'annoncer, j'en ai seulement 199 exemplaires, parce que tout le monde va se lancer dessus, puis finalement, j'en fais d'autres. Si tu fais ça trop souvent, les gens ne croiront plus quand tu dis que c'est exclusif.
Effectivement.
Puis ça marchera pas, mais bon, c'est tellement des produits spéciaux, les L4, que j'ai tendance à leur pardonner parce qu'on en reviendra là. Il n'y a pas grand-chose qui se conduit comme ce moteur-là. Je vais juste terminer pour te dire que L4, c'est devenu justement quasiment un brand. Là. On a les moteurs L-Crate, c'est-à-dire c'est des moteurs L4 qu'on peut acheter juste le moteur sans véhicule.
Et ça, c'est une bonne chose parce que vous avez à la maison un vieux châssis, que
exact.
Ce soit justement un muscle car des années 70 et que vous voulez en faire un resto mode, par exemple, vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver sur les sites de petites annonces un Challenger L4 qui aurait été tapé dans le derrière. Vous pouvez acheter un moteur qui est flambant neuf dans la boîte. Bon, C'est très coûteux, mais c'est possible.
Puis encore là, il faut le programmer nous-mêmes et tout. Là,
ouais,
mais bon,
oui.
On a un L-Crate de 717 chevaux. On peut avoir un L-Crate Red Eye de 780.
Ça coûte combien tout ça?
Puis c'est vraiment pas donné parce que tu vois, ça va jusqu'à Elephant. Ils ont même créé un nouvel animal, là, le gros éléphant. C'est un moteur de 1000 chevaux puis 950 livres pieds de coupe. Ça,
il
c'est
avait été dévoilé au salon CIMA, si je me trompe.
Exactement. Puis supposément, encore une fois, supposément en quantité limitée. Là.
Ouais.
Ben, si tu réussis à trouver un moteur Elephant, là, c'est 30 000 $ US.
C'est pas si mal.
50 000 $ pour un moteur qui va... En tout cas.
Je trouve pas ça si pire.
Je sais pas, ça commence à faire de l'argent. Là.
Pour mettre dans un Duster qui vaut 20 000, là, c'est parfait.
Moi, je suis déçu parce que j'ai pas vu une vieille Civic hatchback du début des années 90 avec ce moteur-là encore.
Ouais, tu sais, il faudrait le placer là en position centrale arrière.
Ah, ça serait malade. Tu fais ça avec un modèle à propulsion, là? Ah.
Non.
Si seulement Saint-Eustache est encore ouvert, je suis certain qu'on verrait ça là-bas.
Non,
sur le 8e de 1000.
Trop peu de chance.
Il y a pas le monde qui arrive avec des voitures de 2000 chevaux et faire le 8e de 1000 en une seconde. Là. En tout cas, ça coûte cher.
Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Fait que tu vois, Germain, le L4, c'est environ ça l'histoire. Pourquoi je t'en parle? Parce que l'histoire semble sur le point de se terminer. Parce que les gens, c'est Stellantis, ont l'air de dire que les jours du L4 sont comptés et qu'ils ne seront pas remplacés immédiatement. Là.
Et à un moment donné, les normes d'antipollution, les normes de consommation vont être de plus en plus sévères, vont tendre à être de moins en moins permissives. Et des moteurs comme ça ne respecteront plus ces normes-là.
Non, surtout, écoute, pour te donner une anecdote, OK, la semaine dernière, j'avais un RAM le T-Rex, OK?
Bonjour la planète.
C'est ça. Puis je faisais quelque chose comme 26 litres au 100 km, puis je te jure, je le conduisais quand même doucement. Cette semaine, j'avais le Durango L4, d'accord? Qui est le même moteur, mais bon, on en reparlera. Moi, je trouve qu'il est un peu mieux dans celui-là. Mon père m'appelle au téléphone, je suis en train de conduire. Je parle en main libre, bien entendu. Je ne suis pas un candidat à la mairie de Montréal, moi. Puis là, mon père m'appelle, puis me dit, puis la consommation d'essence, comment aller dans celui-là? Là, je dis, père, est vraiment moins pire. J'ai l'air de faire juste 12 litres au 100 km. Je comprends pas, probablement que c'est moi. C'est en 1000 au galop.
C'était à
12 000
au galop.
Moi, je dis, fait 12 litres. Non, c'est donc bien bon. Je me disais, ça se peut pas, mais gars, c'était ça qui t'écrit. Non, c'est 12 000 au galon. Ça veut dire que même en faisant attention, en roulant à 110 km/h sur le cruise control, comme dirait mon oncle, je faisais du 22 litres au 100 km.
Oups.
Fait que tu crois qu'un moteur comme ça n'a plus sa place en 2021?
Il a encore sa place dans mon cœur, ça, c'est certain. Mais j'ai bien peur, effectivement, qu'il ne rencontre plus les normes, là.
Comme c'est l'été, Germain, on va faire un jeu de feu de camp. On va parler de nos premières expériences ensemble, toi et moi.
OK.
Parfait. C'est quand la première fois que tu as conduit une voiture L4? Raconte-moi, c'était quoi?
De mémoire, ça s'est produit avec une Challenger L4 white body. Donc, la version avec les pneus plus larges et les voies qui sont élargies, les ailes qui sont élargies.
La suspension ajustable et tout. Là.
Oui, effectivement. Donc, ça lui procure là quand même une meilleure tenue de route. Et pour l'occasion, je voulais tourner une capsule vidéo qui allait être différente d'un stand-up classique, c'est-à-dire un mononcle devant un char qui parle des pots et des comptes.
Avec sa casquette Cadillac. Là.
À peu près. Et qui fait une ou deux séquences à l'intérieur du véhicule pour nous dire que ça gronde, que ça va vite. Et ça finit là. Bref, j'avais eu l'idée de placer des GoPro dans l'habitacle et de proposer à des collègues de bureau de venir à tour de rôle faire quelques départs rapides.
Ah, c'est cool ça.
Quelques départs rapides et de filmer leurs réactions. Donc, certains étaient... On peut dire subjugué. Je pense que on était loin de la Prius Communauto en termes d'accélération.
Tes collègues français devaient capoter un peu.
Ah, mes collègues québécois aussi. Ils étaient pas mal au bout de leur vie. Fait que bref, ça faisait du bon contenu, divertissant, parce que forcément ils avaient plein de questions. C'était très loin de tout ce qu'ils avaient vu, de tout ce qu'ils avaient connu, et de voir leur réaction en temps réel, c'était franchement intéressant. Le seul problème, c'est que quand on a publier ça, je te laisse imaginer la quantité de messages qu'on a reçus pour nous dire qu'on était des ci puis des ça.
Ah, la vitesse et blablabla.
Irresponsables, blablabla, blablabla. Bla, bla.
Parce que bien entendu, tu as fait ça en plein milieu de Saint-Denis, hein, j'imagine ton test.
J'avais fait appel au 5e amendement. Donc, on avait retiré, hélas, la capsule vidéo.
C'est bien dommage. Moi, la première fois que j'ai touché à ça, je m'en rappellerai toute ma vie, là, c'était en 2015, OK? Le Charger L4 venait de sortir. C'était tout chaud. Il venait d'arriver sur la flotte de presse. Puis, allez, tu sais, on dit souvent en blague qu'il y a beaucoup de rapaces, entre guillemets, là, qui ouais. essaient des voitures de presse qui ne devraient peut-être pas nécessairement nous voir.
Mais dis-toi que. C'est un autre débat.
Mais dis-toi qu'à l'époque, c'était encore pire, là. En 2015, là, du monde inconnu, t'en avais un lundi matin à place, on ramasse ces voitures-là. Et comme je commençais, tu comprendras que les voitures ABC, c'est pour moi qu'ils avaient. Tu sais, moi, j'étais monsieur Elantra, monsieur Sentra, monsieur fait un comparon entre la Mazda 3 puis la Kia Forte, tu sais.
Okay.
Mais tu sais quoi?
Faut commencer en bas de l'échelle.
Ben, c'est ça que je me disais, ça me dérangeait pas. Puis au final, mes textes étaient plus tus que les autres parce que je sais moins qu'il y a des chars que le monde pouvait moins de s'acheter.
Ouais.
Donc j'ai un collègue qui était vraiment plus senior, un certain Alain Morin, on le salue si jamais il nous écoute. Là. Aujourd'hui, dans la belle région de Granby, il coule la vie douce. Ben, Alain avait...
Voilà.
En tant que citoyen senior, là, en tant qu'employé senior, pardon, avait eu la magnifique L4. Mais oublie pas qu'à l'époque, il y avait pas de version wide body avec non. des meilleurs pneus puis une meilleure suspension pour de la traction.
C'était une version ordinaire.
C'était une Charger SRT8 qui était habituée de prendre 450 chevaux à qui on donnait 707
dans le derrière.
Ouais, puis tu t'appelles dans le temps, t'avais deux clés. Hein. T'avais une clé de 500 chevaux puis une clé de 707 chevaux. En tout cas, c'était vraiment cool. Calin, il y a la voiture. Puis moi, je vais pas le têter. Je vais pas. Laisse-moi essayer. Je dis rien. Là, il vient voir moi, puis un autre de mes jeunes collègues avec qui on travaillait là-bas. On était deux du junior. Disait, hey les gars, je vous fais un spécial. Je vais vous laisser essayer le L4. Faut que vous essayiez ça.
Okay.
Je comprends. Oh, merci. Fait que là, c'est la première fois que je conduisais de sa vie avec. T'sais, il me connaissait pas. Il s'est dit peut-être que c'est un esti de fou. Fait que lui, il me donne la clé. Il embarque avec moi. Il me dit, Marc-André, je te demande une chose. Fais-moi pas peur.
Alain, ça qui t'a
dit. Ouais, Alain me dit ça. Mais tu sais, on se connaissait pas vraiment. Je venais de commencer au guide de l'auto à l'époque, là. Là, j'inquiète-toi pas. Tu sais, ma voiture personnelle, c'est une Corolla 2013, tu sais, le pire qui va arriver, c'est que.
C'est là, que t'en profites, là, oui, là, effectivement.
Je pars la voiture, puis c'est impressionnant. Puis écoute, je sais pas si c'est parce que la route où j'étais était poussiéreuse. Je sais pas si c'est parce que. Mais rien, justement.
Ah.
Chaque fois que j'essayais de décoller, ça spinait. Genre, je roulais à 80, j'essayais d'écraser la voiture. Tu sais, l'antidérapage, je se mettais de la partie. Il y avait rien à faire pour obtenir cette puissance-là. Les roues arrière ne fournissaient pas. Puis moi, dès le départ, j'étais parti avec un préjugé.
Peut-être avait-elle consommé un petit peu de caoutchouc?
Ah, écoute, elle en a consommé pas mal. Parce que dès le départ, j'ai eu un préjugé négatif avec le L4 parce que j'étais comme, c'est bien beau mettre 707 chevaux d'une voiture. Si la puissance se rend pas aux roues, à quoi ça sert, tu sais?
Ouais.
La même année, on avait fait un comparo dans le guide de l'auto de cette année-là, entre justement une M4. Non, c'était-tu une M4 ou une M3? Une BMW sportive, une Lexus RCF, tu vois la catégorie.
Absolument.
On avait mis une L4, justement, pour voir. Elle s'était fait dévorer tout rond dans le comparatif. C'était vraiment pas une voiture de circuit, tu comprends?
Mais elle avait fait des séquences mémorables lorsque t'es venu le temps de faire un nuage.
Ah, ça oui. Mais tu vois, depuis, Dodge a peut-être réalisé que c'est cool de demander 100 000 $ pour une voiture qui est pas capable de performer. Puis, je pense que la version white body, pour ceux qui sont intéressés à un Charger ou une Challenger L4, là, c'est vraiment la version achetée et plus dispendieuse. Au moins, elle donne des vraies qualités dynamiques à la voiture, tu sais. Et c'est pour ça que quand ils ont annoncé qu'il allait avoir des versions 4 roues motrices de L4, j'étais vraiment enthousiasmé, parce que je me suis dit, bon, c'est enfin ce qui manquait à la voiture.
On va arrêter de glisser, on va conserver un certain contrôle, et c'est avec le Grand Cherokee, finalement, qu'on a retrouvé ça pour la première fois.
Ouais, mais tu sais, tu t'appelles qu'initialement, en fait, c'est encore le cas, là, on a une baisse de puissance par rapport aux autres versions, parce que le différentiel du système 4 roues motrices peut pas prendre tout le couple. Mais bon, c'est super convaincant quand même. En fait, moi, j'aime vraiment beaucoup les deux VUS qu'on a, là. On arrive avec un produit qui est le même prix environ qu'un GLE 63MG, qu'un X5M, qui est vraiment plus rapide en ligne droite. C'est dangereux comment c'est vite, ces machines-là, comment ça accède à la ville.
Mais on n'a pas tout à fait le même raffinement.
Ah non, ça, je vais être honnête avec toi, là. Tu sais, j'ai bien, dans ce moment, j'ai bien du fun avec mon Durango L4.
Ouais.
Ça accélère, mais... Tu regardes autour de toi, la finition, tu sais, c'est digne d'une compagnie généraliste à la Dodge, là. C'est pas top.
Déjà, il est Dodge, aussi bien fini que celui à 40 000, là.
Non, exact, c'est ça. Puis j'ai rien contre Dodge en tant que tel, mais tu sais, déjà, la base de la finition de cette compagnie-là, c'est pas son point fort nécessairement, là. Ils ont un design correct, là, mais tu sais, c'est pas top shape.
Mais ce que j'aime de ces véhicules-là, c'est que oui, ça vaut 100 quelques mille dollars. Ça fait un peu de bruit.
À peine.
Ça fait un peu de bruit, mais en même temps, c'est un véhicule qui dort. Personne va le remarquer vraiment. C'est une couleur relativement sobre.
Ouais, comme blanche, là.
Ouais. Les gens vont pas se revirer les uns après les autres. C'est pas tape à l'œil. C'est pas m'as-tu vu. Oui, c'est les puristes vont savoir ce que
exact.
C'est. Mais sinon, ça a l'air d'un VUS bien normal. Et ça, Ça me plaît quand même.
Ouais, parce que t'as raison. Quand t'ajoutes, exemple, un X5M pour revenir à celui-là, tout le monde sait ce que t'as. C'est un ouais. BMW en partant du flash. Ouais. Ce Durango-là, surtout, le mien, il n'y a pas de stripe, là. Tout le monde s'en fout, tu sais. Ouais. Par contre, le Ram T-Rex, la semaine passée, j'ai rarement eu autant de thumbs up et de gens qui s'essayaient sa route pour essayer de me provoquer pour que je clenche la voiture. C'est le rat de ces moteurs-là. Écoute, je vais chercher ma conjointe qui travaille pour une compagnie de construction, là. Je te mens pas, le garage s'est vidé quand l'auto est arrivé. Tu dégages, peux-tu le boire ou pop le hood, donne un coup de gaz. C'est des voitures qui ont une aura mythique et honnêtement, je sais que Mercedes et BMW connaissent de bonnes années, mais ils doivent capoter sur l'aura que Judge arrive à avoir avec ça. Je
pense pas que ça les dérange
ben. Ben encore, tu serais surpris. C'est pas la même clientèle, on va se le dire, là, mais c'est fascinant comment, excuse ce que je veux dire, on dirait l'approche redneck à la mécanique, ce que Judge a fait. Tu sais, t'as Mercedes qui va étudier une transmission des millions d'heures pour arriver à quel rapport Judge a littéralement été. Ce moteur-là,
c'est
on va le mettre dans tout.
C'est la chemise de chasse, puis voilà.
Exact, on va le mettre dans tout, puis on va mettre une transmission 8 vitesses qu'on met dans tout, puis amusez-vous avec ça, les cocos. Donc, Germain, ça nous amène à un peu à la conclusion, en fait, de ce genre de podcast historique slash tranche de vie, là. Comme je te disais dans l'introduction, Dodge dit que les jours sont comptés, mais que des modèles dans ce genre sont là pour rester.
Ouais.
Donc, je te demanderais un peu d'imaginer, selon toi, c'est quoi le futur d'un véhicule, n'importe quel genre de véhicule L4, c'est un véhicule normal avec un gros moteur, un muscle car dans le fond. Comment cet esprit-là, comment l'esprit L4 de sauvagerie, un peu redneck, comme je te disais, peut survivre à l'avènement de l'hybridation ou de l'électrification?
Ben voilà, t'as répondu à ta question en la posant. Électrification. Ça va faire mal aux puristes, on n'a pas le choix, mais c'est le seul moyen d'évoluer et de survivre.
Donc, selon toi, le prochain Challenger L4, ça va
changer? Peut-être pas le prochain, parce que chez Dodge, on évolue vraiment, vraiment lentement. Mais effectivement, si on veut rester dans cette cadence-là, si on veut continuer de proposer des performances aussi élevées, ben, on va devoir jouer dans l'hybridation ou dans l'électrification. Et on le voit ailleurs, là, des manufacturiers qui proposent des bombes, littéralement, à moteur électrique, ben, il y en a. Alors, pourquoi on serait pas capable de faire pareil chez Dodge? Ben, voilà.
Tant que les produits arrivent à garder le même aura, ça me va, mais...
Ah, ben ça, voilà.
Pas de son du supercharger qui fait... Tout le temps, ça va être dur à...
Absolument. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier à l'animation et moi-même, Germain Goyer.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production
Cube Radio.